Chez Graphéine, nous inaugurons une série d'articles intitulée « Temps et création ». L'idée est d'aborder sous différents angles le rapport entre le temps et la création, qu'il s'agisse du temps que l'on passe à créer, de la gestion de ce temps, des mécanismes psychologiques, historiques, etc. Le premier article s'intitule « Être charrette, une tradition pressante ». C'est une approche historique et sociétale de la charrette. On y verra l'origine de l'expression et nos rapports à la pratique de la charrette dans nos sociétés. Dimanche, minuit passé. Il va falloir terminer ce projet pour votre client qui l'attend lundi matin à 9h pétante. Et vous êtes encore charrette. À la bourre, quoi, pressée par le temps, écrasée par le travail. Mais d'ailleurs, tiens, d'où vient l'expression charrette? Et quel rapport les créatifs ont-ils tissé vis-à-vis de cette pratique? L'expression être charrette nous vient de la section architecture de l'École des Beaux-Arts, probablement dès son installation en 1830. Certains ateliers étaient extérieurs au bâtiment principal. Les élèves doivent donc apporter à la main leurs travaux, collés sur des châssis, avant vendredi midi, dans la grande salle Melpomène. Les nouveaux, frais comme des gardons, sont réquisitionnés pour transporter ces précieux rendus à l'aide de charrettes à bras louées pour l'occasion. Ils gueulent « charrette au cul » sur le trajet et gardent au retardataire qui pénaliserait tous les autres. Arrivés dans l'une des cours de l'école, ils déchargent le contenu à la main sous le regard du gardien qui en vérifie la complétude avant de donner le feu vert pour l'installer dans la grande salle. La charrette, cette dernière ligne droite avant le rendu d'un projet créatif, a donc bel et bien été jadis un sprint, au vrai sens du terme. En 1927, quelques élèves de l'association sportive organisent même la course du Charrette Club, au départ de la rue d'Assas à Paris. Jean Guinard, l'un des fondateurs, proclame « Nous formons une section de sport utilitaire qui prendra le titre de Charrette Club ». Sport utilitaire, en effet, car il n'échappe à aucun copain que le transport des châssis en charrette exige, de la part des nouveaux, des qualités de souffle et de vitesse, sans lesquelles l'envoi des anciens risque d'arriver trop tard. Entraînez-vous, nouveaux, et vous pourrez coller vos navets jusqu'à moins 10 avec l'équipe championne de l'année dans les brancards. En 6 minutes 26 secondes, les gagnants avalent à une allure de zèbre le 1 km 750 du parcours. Si seulement on pouvait tous rendre nos projets à moins 10, si l'histoire de la charrette vous passionne, vous trouverez quantité d'informations sur le site des anciens élèves d'École d'architecture et beaux-arts. La charrette Persego. Presque deux siècles après, on a perdu l'usage de la charrette à bras, mais pas cette course contre la montre. En école d'architecture et en école d'art plus largement, les élèves s'adonnent couramment aux charrettes nocturnes. Rassemblés les uns chez les autres, la charrette se vit comme un rite initiatique. Il s'y dégage une effervescence, une créativité survoltée et la sensation au petit matin d'avoir achevé ensemble une tâche créative dans les heures plus si sombres de la nuit. Bien qu'elle puisse parfois être bien vécue, la charrette ne découle pas franchement d'un désir quelconque des étudiants à travailler la nuit à la dernière minute. Les emplois du temps sont parfois condensés, sans changer la quantité de travail demandé, les obligeant à travailler jour et nuit pour valider les cours. Les enseignants en demandent aussi beaucoup, et la charrette nocturne est un rythme à tenir pour faire ses preuves au sein du monde créatif. Si notre corps peut gérer quelques pics de stress ponctuels et même en tirer un bénéfice au niveau de la créativité et de la productivité, c'est ce qu'on verra dans un deuxième article, c'est bel et bien l'inverse qui se produit lorsque la charrette est répétée sans relâche. Le manque de sommeil et ou le niveau de stress continu engendre un état de stress chronique qui perturbe notre système nerveux et nous met en état d'alerte permanent. À terme, cela peut mener à la dépression, au burn-out, voire au suicide. En France, de nombreuses écoles d'architecture ou d'art déplorent le suicide de certains de leurs étudiants à cause du rythme effréné et du manque de sommeil lié aux charrettes récurrentes, ce qui est dramatique. En faisant de la charrette une routine estudiantine, on se conditionne à cette méthode de travail particulière. Il est presque naturel alors qu'elle perdure dans le milieu professionnel. Il n'est pas rare ainsi pour les créatifs de donner un coup de fouet avant le rendu d'un projet, de faire des heures sup, voire d'y passer la nuit. Soit parce que le client n'a pas laissé assez de temps pour accomplir l'exploit de trouver une idée, la réaliser et la livrer, soit parce que le créatif a pris trop de temps dans sa phase de recherche et a besoin d'un temps créatif coupé du temps, souvent la nuit ou seul au bureau, pour se concentrer et cravacher. Il arrive aussi que cette personne aime se trouver dans de telles conditions de stress et qu'elle soit alors exceptionnellement bénéfique. On verra dans un autre article que ce n'est d'ailleurs pas exactement la charrette en soi qui est bénéfique, mais les conditions qu'elle réunit. Présentéisme et culture compétitive. Toujours est-il que dans nos sociétés où le temps c'est de l'argent, et que la productivité se mesure en rentabilité et donc en temps passé, notre temps devient une ressource de luxe qu'il convient de bien savoir manier. À tel point que passer beaucoup de temps sur une tâche particulière devient un outil de mesure pour valoriser son investissement. J'y consacre beaucoup de mon temps, c'est donc que je suis très dévouée et efficace. Si les Français ne ressentent a priori pas d'attrait particulier à l'idée de travailler à la dernière minute ou toute la nuit, ils ont bel et bien un goût prononcé et inavoué pour la souffrance et la compétition, en plus du talent certain de se tuer à la tâche dans le but de se sentir valorisé ou du moins remarqué par leurs supérieurs. Si au Danemark ou aux Pays-Bas, le salarié qui part après 18 heures est mal perçu car jugé incapable de gérer son temps et ses priorités, en France c'est plutôt un moyen de se faire remarquer auprès de sa hiérarchie. Couler sous le travail ou déborder de ses heures fixes est malheureusement très bien vu. Avouez qu'il vous est déjà arrivé de tuer le temps pour ne pas partir avant l'heure ou d'attendre que votre supérieur finisse sa journée pour plier bagage sur ses talons. Cette attitude porte un nom. En effet, dans les sociétés paternalistes et ou à haute hiérarchie comme la nôtre ou aux États-Unis, dans lesquelles la compétition est rude pour avoir les meilleurs postes, il n'est pas rare de voir les salariés faire ce qu'on appelle du présentéisme compétitif. Identifié par un psychologue britannique, Carrie Cooper, dans les années 90, ce phénomène de surinvestissement au travail au détriment de sa sphère privée est, je cite, « un mécanisme de valorisation personnelle » ou encore une réponse à une insécurité professionnelle, d'après les auteurs Éric Gosselin et Martin Lozier de l'Université du Québec. Rester tard le soir, commencer une réunion à 18h, éviter de partir plus tôt même si l'on n'a plus rien à faire, travailler la nuit en charrette ou même venir malade au travail sont autant de façons de répondre présent sans être pour autant plus productif. À long terme, le présentéisme a des effets vraiment néfastes, comme la dépression ou d'ailleurs la baisse de productivité de plus de 30%. Au Japon, on nomme d'ailleurs cela « karoshi », la mort due à l'excès de travail. C'est dire si le présentéisme a un impact négatif sur la santé. Mais si on travaillait moins pour être plus efficace? La méthode fait pourtant ses preuves au Danemark. On imagine mal les étudiants danois travailler la nuit, eux qui n'ont même pas de devoirs à faire à la maison. Sans pour autant faire l'apologie de la charrette, on peut se demander pourquoi travailler à la dernière minute est parfois tout de même utile au métier créatif. Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque l'on est stressé par le temps? Comment trouver le temps d'être créatif? Et comment optimiser cette capacité à produire des idées? Les réponses dans nos prochains articles.